En route pour le Niger avec l'association 1000 espoirs, 1000 savoirs. Je reçois aujourd'hui l'association 1000 espoirs, 1000 savoirs, alors 1000 espoirs. Nous verrons pourquoi tout à l'heure, et 1000 savoirs également dans une démarche de solidarité internationale de transmission de savoir-faire. Autour de moi, j'ai Jean-Yves Redon, qui est le président actuel de cette association, Jacques Delnoz, qui a été président pendant longtemps, et puis Jury Bing, qui est chef de tribu, le pasteur nomade au Niger, mais aussi président de l'association Djabral. Alors, tout d'abord, cette association 1000 espoirs, 1000 savoirs, Jacques Delnoz, le nom, quand on le voit écrit, évidemment, il parle, on comprend un peu mieux ce que c'est, mais pouvez-vous nous dire comment elle est née ?
Cette association est née il y a 10 ans, au cours d'un voyage touristique que l'on a fait au Niger, et où l'on voulait voir les danses Roudabé, qui sont célèbres d'une manière touristique. Et au cours de ce voyage, on a demandé ce qu'on pouvait faire pour le village, et ils nous ont dit, on était 7 à l'époque, ils nous ont dit, on voudrait faire une école. On voudrait monter une école, mais notre problème, comme on est nomade, c'est que il faut que les enfants aient une cantine parce que les parents sont au loin. Donc on est parti avec l'idée de la cantine, d'où le nom 1000, qui est la nourriture de base de chez eux, 1000 espoirs et 1000 savoirs, de la cantine contre le savoir, quelque part. C'est comme ça qu'on a démarré.
Alors, c'est parti d'un voyage touristique, donc quand vous êtes allé au Niger, il n'y avait aucune intention préalable, disons, d'entamer une démarche de solidarité, de co-partenariat.
Absolument aucune.
Comme quoi le tourisme peut donner de bonnes choses.
Oui, mais beaucoup d'associations sont nées de cette rencontre, d'une rencontre qui s'est dégagée ensuite en amitié profonde, en compréhension, et en besoin aussi, quelque part, de connaître un autre peuple dans la profondeur. Et pas seulement de passer à
Il ne s'agit pas de passer en faisant des photos, quoi.
Voilà, de passer avec les photos, etc. Mais... Alors, bien sûr, ça dégage de l'empathie, ça commence par de l'empathie, de la compréhension, parce que sans intelligence de situation, on fait que des bêtises, et puis ça va ensuite plus loin avec une vraie collaboration entre l'association qu'on a montée en France et l'association des éleveurs qui est de l'autre côté au Niger.
Alors justement, l'association Djabral, Jury Big, cette association, elle est née assez rapidement, donc après ce voyage touristique de ces Rennais dans votre pays, le Niger.
L'association, il est né en 2001 et on a eu des problèmes comme on était au nomadisme. On a dit il faut trouver des solutions parce que sans l'école, on peut rien faire. Donc on a fait 10 ans de parler et après on a monté l'association Djabral. Je pense, après 5 ans, on a rencontré avec Jacques. C'était difficile, ils ont été en mission. Donc, on est parti sur le domaine de l'école qui est très bien, avec les puits, avec les forages et tout ça, quoi.
Les nomades sont nombreux. Vous êtes nombreux au Niger, dans un pays comme le Niger?
Oui, il y a beaucoup de nomadisme au Niger, sur les Pelouadabé, les Touaregs, surtout c'est eux qui sont vrais nomades. Il y a des autres aussi, mais eux, plus majorité, ils font le nomadisme.
Et vous vivez donc de l'élevage?
On vivait, oui, les vaches, les moutons, les chèvres, les chameaux.
Donc vous vous déplacez en fonction quoi, des saisons, de la pluviométrie, enfin des pluies, il faut qu'il y ait de l'herbe. Donc,
Exactement, on déplace concernant où il y a de l'herbe. Saison des pluies ou fin des pluies, on suit toujours où il y a de l'herbe. Au Niger, on déplace. Avec ça, quoi. Il faut les gens qui cherchent où on peut déplacer, amener des animaux où il y a beaucoup de l'herbe. Comme nous, là-bas, c'est pas comme ici, c'est vous. Non. Et il n'y a pas assez de pluie. Chaque fois, ça fait plus de... Je peux dire, depuis 2010 jusqu'à maintenant, chaque année, il y a des sécheresses qui passent, qui augmentent. C'est un peu difficile, des nomadismes.
Vous voulez dire qu'il y a une recrudescence des sécheresses? Est-ce qu'on peut parler d'effet du réchauffement climatique? C'est pas facile à dire de façon tranchée, mais enfin...
Bon, les problèmes de climatique pour nous, je pense que c'est très grave. Il y a des problèmes parce que chaque fois, il n'y a pas assez de pluie, il y a des sécheresses, il y a des animaux qui meurent. Et il y a pas mal aussi des maladies. Mais bon, je pense que l'État au Niger, il fait son efforts aussi pour trouver des solutions toujours. pour les éleveurs, mais il faut grand chose quand même pour trouver des solutions, quoi.
Est-ce que le désert progresse dans ce pays, le Niger, le fleuve Niger lui-même, et donc son débit est de plus en plus faible?
Oui, désert, c'est descendre beaucoup, beaucoup. Ou qu'on a pensé, peut-être s'il n'y a pas une autre solution, dans quelques années, les déserts, ça va être beaucoup dans les Sahel.
Alors justement, un des problèmes, dit-on, c'est que aussi, quand il y a peu de végétation et que tout est utilisé, soit pour faire du feu, soit pour les animaux, ça grignote. Enfin, la terre est plus vulnérable et ça permet au désert aussi de progresser.
Peut-être, mais comme nous, on n'est pas très fort sur ce domaine pour vous expliquer très bien, mais je pense que il y a plus d'arbres comme avant. Et je pense que c'est ça aussi qui amène les problèmes de désert qui descendent beaucoup. Peut-être, je sais pas combien de kilomètres, mais on connaît où avant, dans quelques années, beaucoup de forêts, mais nous, il n'y a plus. Ils viennent Sahel. Il y a un grand changement sur les élevages. Et que je pense que ça va disparaître dans quelques années.
L'élevage va disparaître?
C'est possible, c'est ça qu'on a pensé. Tous les éleveurs y pensent.
Les peuples comme vous qui sont nomades, vous êtes en situation de grande fragilité.
Oui, il y a des situations difficiles. C'est pour ça qu'on a dit maintenant il faut rester sur place pour les mettre les enfants à l'école. Comme les nomades avant, ils ne sont pas allés à l'école. Maintenant, il n'y a pas autre solution. Vraiment, il faut aller à l'école, dans les domaines de l'école.
Donc vous êtes en train de vous sédentariser?
Oui, maintenant, depuis qu'on se connaît avec Jacques, il y a des enfants qui vont chercher les bacs cette année. Il y a, bon, petit à petit, on peut dire même c'est beaucoup, parce qu'il y a plus de 300 enfants qui vont à l'école grâce à 1000 espoirs, 1000 savoirs. Et on a fait quand même beaucoup de choses, ils sont à pied, beaucoup de choses fantastiques au Niger. Si il y a toutes les associations, je pense qu'ils font les mêmes choses. Vraiment, ça va régler beaucoup de problèmes.
Justement, je me tourne vers le président actuel de l'association 1000 espoirs, 1000 savoirs, Jean-Yves Redon. À l'heure actuelle, donc, qu'est-ce que fait votre association pour permettre à ce peuple du Niger, d'avoir accès davantage à la culture et de se développer et puis en fait de changer, parce que quand on entend donc ce témoignage de Jury Big, c'est carrément une mutation culturelle très importante, passer de l'état de nomade à celui de sédentaire, c'est pas évident, c'est une rupture par rapport à toute une tradition.
Oui, vous avez tout à fait raison et c'est une grosse responsabilité finalement qu'on a endossée, parce que au départ, lorsque Jacques Delnoz, Jury et tous les amis autour ont décidé d'aider ce projet de scolariser ces enfants nomades, ça a été de mettre en place simplement des cantines pour que les enfants puissent aller à l'école et qu'ils aient un endroit où ils puissent manger. Depuis, il a fallu construire des écoles. Parce que quand ils ont démarré, c'était juste une école en banco avec une seule classe. Il n'y avait même pas d'instituteur au début, et donc l'administration a fini par mettre un instituteur qui avait 90 élèves dans sa classe pour commencer. Donc des écoles ont été construites, des bâtiments, trois bâtiments dans le village, dans le premier village de Tamfirgam où il y a l'essentiel des élèves, et puis un autre bâtiment à Bilbal qui est un autre village qui dépend du même groupe. Et donc ces trois bâtiments qui ont permis d'avoir de nombreuses classes là maintenant, et donc d'avoir beaucoup moins d'enfants dans chaque classe. Actuellement, on est à entre 20 et 30 enfants par classe pour l'ensemble de ces écoles. Ces bâtiments ont été associés aussi à la construction de maisons pour que les instituteurs viennent s'établir là, parce qu'on est vraiment perdu en brousse, loin de tout. Hein.
Oui. Pour situer le Niger, on connaît grosso modo, hein, on sait que bon, c'est dans la partie ouest de l'Afrique, c'est pas tout à fait au sud, c'est pas au nord non plus, c'est au centre. Mais enfin, pouvez-vous nous resituer un petit peu la région dans laquelle vous travaillez?
Alors donc, c'est à 800 kilomètres au nord de Niamey, dans la direction d'Agadez, à peu près au centre du Niger, dans la région de Tawa, qui est une région dont on a un peu parlé ces derniers temps. Peut-être on en reparlera tout à l'heure. Donc, dans cette région, Tawa, c'est la capitale régionale. Abalak, c'est une des préfectures. Et Tamfirgam et Abilbal sont des villages de sédentarisation qui sont à peu près à une heure et demie de 4x4 par des mauvaises pistes de Abalak. C'est là que sont les écoles primaires. Et depuis que tout ça a été construit, eh bien les enfants ont grandi, ont franchi les classes, sont arrivés en sixième. Et puis maintenant, on a des élèves qui arrivent en terminale.
Donc c'est le succès, là.
Ah oui, c'est le succès, mais c'est aussi des responsabilités nouvelles. Parce que lorsque nous sommes allés il y a exactement un an sur place, on a constaté une chose, c'est que ces enfants, en particulier au niveau du collège et du lycée, ont des difficultés à affronter l'avenir, tout simplement parce qu'ils manquent de livres. Ils n'ont pas de communication avec l'extérieur. Ce sont des petits broussards qui connaissent rien de l'extérieur quasiment, et donc vont avoir à affronter un nouveau monde avec une certaine difficulté. Quand ces élèves vont à l'école, ils ont un cahier pour chaque matière, le cahier de français, le cahier de mathématiques, le cahier etc. Ils notent tout. Ils n'ont pas de livres ou très peu, et ils apprennent tout par cœur.
Ça, c'est assez classique, non, dans certaines cultures, les cultures orales?
Oui, c'est vrai, mais là, ce qu'on veut, c'est justement aller vers la culture du livre, hein, et dépasser cette culture orale et arriver aussi à un enseignement qui soit plus performant, justement, parce que basé sur le livre.
Alors justement, je me retourne vers Jury Big, donc... passer de la culture orale à la culture écrite, ça c'est une transition très forte. Est-ce que ça fait pas un petit peu peur à votre peuple?
Bon, je pense que c'est pas peur, parce que c'était difficile. On connaissait, sans aller à l'école, qu'est-ce que ça va donner. Donc, y a pas d'inquiétude pour ça, parce que c'est le chose qu'on a pensé maintenant pour être vivre, pour faire connu au pays, parce que sans aller à l'école, on peut pas vivre. Et parce que avant, on pense pas ça, on n'a pas d'intention d'aller à l'école. Et on a compris un peu, on a perdu beaucoup de choses. Quand même, on a des cultures, mais on a perdu beaucoup de choses par rapport du monde maintenant. Et donc, si on arrive à voir quelque chose comme ça, je pense que c'est un grand plus pour arriver d'exister au pays.
Et donc vous êtes nomade. Est-ce que vous avez fait un petit peu allusion tout à l'heure, mais est-ce que le pouvoir central, qui est quand même concentré dans les villes, comprend bien, enfin, vos problèmes, ou est-ce qu'il vous regarde même de loin ou de haut?
Je pense qu'ils comprennent, parce que c'est les problèmes qu'on sait maintenant tout le monde au Niger. Mais c'est pas que les comprendre qui est important, il faut trouver des solutions.
Ouais, il faut agir.
Ouais, il faut agir. Voilà.
Il suffit pas de dire qu'on vous comprend. Je vous ai compris. Voilà, il y a une phrase très célèbre en la matière, mais il faut trouver des solutions. La population nomade par rapport à la population sédentaire actuellement au Niger, ça représente quelle proportion à peu près? Jacques Delnos.
Il y a dans le nomadisme, il y a deux grandes catégories. Alors principalement, il y a les Touaregs et il y a les Peuls. Et je pense que si ça représente 10%, mais même pas, 5% de la population du Niger, c'est bien le maximum. C'est vraiment peu par rapport à la population globale du Niger. C'est peu par la population globale du Niger. Effectivement, chaque ethnie cherche à avoir plus de l'importance électorale, de l'importance de peser, et donc va avoir tendance à augmenter sa population. Mais les Touaregs et les vrais nomades sont relativement peu. Et donc, effectivement, les autres ont pris les places. Donc pour eux, il ne reste plus rien, puisqu'ils étaient en brousse, ma foi. Et ils n'étaient pas là sur les lieux où on prend les places. Et donc maintenant, il y a toute la reconquête à faire d'un positionnement à l'intérieur du Niger qui soit un positionnement reconnu. Alors bien sûr, le gouvernement sait qu'il y a des nomades. Le gouvernement sait qu'il faudrait faire quelque chose pour eux. Mais c'est extrêmement compliqué, parce que toutes les autres ethnies sont en place.
Parmi les deux peuples dont on vient de parler, les Touaregs et les Peuls, donc vous faites partie de quel peuple?
Il y a des Peuls, on dit les Peuls en général. Il y a des Peuls qui font les nomadismes, il y a Touareg, il y a Arabes aussi, c'est sûr. Il y a tous les ethnies, les autres, où il y a des nomadismes. Parce que seulement, il y a des gens qui sont faits des choses, qui font rester sur place. Il y a des autres qui font le nomadisme. C'est pas que des Peuls et Touaregs. Il y a des autres aussi qui font les élevages.
Et votre tribu, c'est?
C'est Peuls Ouadabé.
D'accord. Ouais. Et donc, vous sentez que vous devez vous battre, là, aujourd'hui, pour justement, montrer que, il y a un enjeu à s'occuper de vous, parce que si vous ne dites rien, on va vous laisser sur le côté,
hein. Ouais, je pense qu'on est sur ça. C'est sûr. C'est quand même un grand boulot. Mais pour exister, il faut continuer. On est là pour les battre, pour trouver des solutions. Mais c'est des boulots quand même, mais il faut aller quoi sur ça. On est obligé de partir sur les domaines de l'école et pour exister. Sinon, ça ne va pas quoi.
Alors, l'école, donc vous, grâce à l'association 1000 Espoirs, 1000 Savoirs notamment, il y a peut-être d'autres associations ailleurs au Niger qui travaillent dans le même sens, mais vous avez vu donc l'école grandir, donc là il y a un certain succès, maintenant il faut aller plus loin, il faut permettre la scolarisation de ceux qui ont été scolarisés, etc. Donc déjà, vous sentez qu'il y a une évolution importante à ce niveau-là ?
Ah, beaucoup, parce qu'il y a des candidats pour les bacs, il y a pour les secondes, il y a pour les... Comment on dit après seconde, première et terminale, et pas mal des enfants, et tous même un peu dur, il y a 65. Et les villages aussi, hein, tous les enfants, comme je vous disais tout à l'heure, 300 enfants. Donc déjà, c'est quelque chose très important qu'on n'ait jamais fait, parce qu'on n'est pas eu des cas comme ça, quoi, pour l'école, pour exister, quoi.
Donc l'école se développe. Est-ce qu'il y a des perspectives, est-ce qu'il y aura des perspectives ensuite de travail? Parce que, bon, l'école, c'est bien d'avoir un certain savoir, mais ça peut aussi engendrer des frustrations si ça donne rien de très concret au niveau du travail.
Moi, je pense qu'ils vont les trouver, mais il y a des problèmes quand même au Niger. Il y a les gens qui sont été à l'école qui sont pas de travail. Mais il faut rentrer dans les domaines, parce que pour moi, il faut aller à l'école pour penser au travail, sinon on n'existait pas. Sans l'école, pour nous, on peut pas vivre. On peut dire, peut-être, je vais pas dire quand même grand mot, peut-être c'est un peu esclavage quand même.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était les parents qui transmettaient un certain nombre de connaissances aux enfants?
Il y a des parents qui conseillent, mais tous les demandes de l'école, comme je vous dis, quand même, c'est pas tout le monde qui sont sur ça. Mais il y a une partie qui est en train de penser qu'il faut aller à l'école.
Dans un instant, nous retrouvons donc les acteurs de l'association 1000 Espoirs, 1000 Savoirs qui travaillent donc au Niger à un projet de développement scolaire. Jean-Yves Redon, il y a tout un enjeu là, développer l'école c'est bien, mais on développe d'abord l'école niveau primaire, ensuite il faut développer le secondaire, et la perspective c'est quoi? Parce que, alors évidemment, tout ne peut pas reposer sur une association, hein, mais il faut quand même se poser la question.
Là, c'est un des rôles qu'on essaye d'avoir, c'est d'essayer d'appuyer en termes de conseils, parce que, comme vous le constatez, les Oudabé sont des illettrés, un peu en dehors de la société qui domine le pays. Et comment aborder le monde moderne quand on n'a pas un minimum de connaissances comme ça? Alors, il y a toute la question, par exemple, de l'apprentissage, apprendre des métiers. Le gouvernement nigérien est en train de développer des écoles techniques, des écoles professionnelles, mais tout ça est extrêmement récent. Il manque de formateurs, il manque de moyens pour former les gens. Et donc, ces élèves qui sont allés jusqu'au rang 6e, jusqu'en 3e, jusqu'en terminale, vont avoir maintenant une vraie difficulté, c'est à trouver des formations.
Donc, des formations professionnelles, quoi. Professionnalisantes.
Absolument. Alors bon, il y a des formations quand même sur lesquelles ils ont des solutions. On pense à l'enseignement. On peut rentrer à l'école normale, régionale, à Tawa, à partir de la 3e ou à partir du bac.
Quand vous dites école normale, c'est-à-dire, parce que c'est ambigu par rapport à ce qu'on a commencé en France.
Non, l'école normale de formation des instituteurs.
Donc c'est vraiment l'équivalent de ce qu'on, chez nous, il y avait l'école normale, quoi, mais même si le niveau était plus élevé, puisque c'était après le bac.
Oui, bien c'est exactement le même système, avec donc des formations en 2 ans pour ceux qui ont passé le brevet, ou des formations en 1 an pour ceux qui ont passé le bac, qui leur permettent de devenir des instituteurs. Donc ça, c'est des choses, et il y a des élèves là actuellement qui réfléchissent à ça. Lorsque nous sommes allés là-bas la dernière fois, des élèves nous ont dit que ça, c'était des carrières qui les tentaient. Et ça serait extrêmement intéressant pour le groupe, d'ailleurs. Mais il y a d'autres formations, par exemple, dans le domaine sanitaire. L'école régionale de la santé d'Ottawa peut former des infirmières, des aides-soignantes, des sages-femmes, des choses comme ça. Il y a d'autres domaines aussi qui sont cruciaux pour ce groupe d'éleveurs. C'est, par exemple, d'avoir des techniciens d'élevage. des spécialistes de la santé des animaux, des choses comme ça. Alors il y a des pistes. Par contre, on a beaucoup de mal à, et eux-mêmes ont beaucoup de mal à trouver les endroits où ils pourront se former. Ça reste encore assez flou pour l'instant, mais c'est tout un enjeu pour les années qui viennent.
Et les endroits où ils pourront se former, c'est-à-dire, vous pouvez préciser?
Oui, bien des écoles, par exemple. Bon, je vous ai parlé des écoles de santé à Ottawa. Il y a, par exemple, une école aussi de formation agro-sylvopastorale à Abalak, juste à côté. Mais ils n'ont pas forcément les formations qui intéressent les éleveurs oudabé. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt des formations qui intéressent les agriculteurs. Tout ça est à creuser. On avance doucement là-dessus, mais bon, on pense qu'on va finir par trouver des solutions. Mais il y a aussi les formations universitaires classiques pour ceux qui vont aller plus loin. Il y a des élèves qui aimeraient faire du droit parce qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir une vue, des connaissances sur les questions d'administration, de gestion, etc. Ils ont bien compris que quand on ne sait pas lire, on signe des contrats dont on ne domine pas les éléments. Ça, c'est un certain nombre de choses qui les intéressent beaucoup. Lorsqu'on fait des marchés pour les animaux, ou lorsqu'ils vont eux-mêmes acheter des choses au marché, ils savent très bien qu'ils se font avoir très régulièrement. Oui. Par le fait qu'ils ne savent pas lire, ou qu'ils n'ont aucune formation en gestion. Ouais. Et dans les questions d'élevage, ces questions-là vont devenir extrêmement importantes.
Alors, c'est vrai que vous avez vraiment ce sentiment-là que on peut abuser de vous par le fait que vous ne sachiez pas lire.
C'est pour ça, quoi. Parce que si on ne sait pas lire et écrire, ça c'est sûr, tout le monde se connaît. Mais nous, c'est maintenant qu'on comprend. Parce qu'avant, nous, quand on fait les élevages, on ne connaît pas. Mais maintenant, on comprend qu'on ne peut pas vivre sans aller à l'école. Sans connaître quelque chose. À l'école, ce n'est pas possible. Voilà, donc... En tout cas, 100%, on a tout fait à force pour aller dans le domaine de l'école. Et aussi, merciment aussi les associations, comme Mille Espoirs, Mille Savoirs, Jacques et Jean-Yves et tous les membres de Mille Espoirs, Mille Savoirs, appuis qui sont faits avec aussi des autres associations qui font domaine de l'eau aussi. Donc,
oui, parce que l'eau, c'est un véritable enjeu. Donc il y a des associations qui creusent des puits.
Il y a des associations qui appuient pour les puits et pour les forages. Donc on dit l'eau c'est la vie. Donc déjà pas mal de choses quand même, les associations qui appuient ici en France et Belgique aussi. Minafri aussi l'appuie quoi. Donc vraiment je pense que on a fait quand même pas mal de choses 10 ans. Que moi personnellement je suis très content, on a fait beaucoup de choses. Pour moi, que je ne connais pas l'école, je pense que moi, je suis dans les résultats. J'ai vu dire ce résultat, c'est en train de faire, quoi.
Alors, on dit aussi parfois que chez vous, les parents auraient du mal à laisser leurs enfants aller à l'école parce que ils ne veulent pas que l'école leur prenne, entre guillemets, leur prenne leurs enfants. On observe vraiment ce type de réflexe-là? Est-ce qu'il y a une méfiance dans un premier temps, au moins?
Avant, c'est comme ça, c'est sûr, exactement. Parce que les gens, ils sont proposés, les enfants, pour aller à l'école, mais ça fait longtemps quand même. Mais maintenant, les gens, ils ont compris que c'est pas bonne idée. Ils sont détardés, il faut pas les mettre les enfants à l'école. Maintenant, il y a quelques uns, pas tout le monde, qui ont compris les solutions, il faut aller à l'école. Sans l'école, comme je l'ai dit, qu'on peut rien faire.
Mais s'il y a beaucoup de personnes à aller à l'école, la tentation, est-ce qu'elle va pas être d'aller carrément en ville? On voit dans beaucoup de pays africains, hein, les plus grandes villes attirent tous les gens qui auparavant vivaient du nomadisme, de l'agriculture, et la vie n'est pas forcément facile. Est-ce que vous n'avez pas une crainte par rapport à ça?
Moi, je pense que non, parce que on n'est pas allé en ville, on a centralisé sur place, on a une petite village qu'on a commencé en Brousse. On n'est pas allé en ville. Donc, avec augmenter cette village plus grand, petit à petit, je pense qu'il y a des solutions. Parce que c'est pas pour aller en grande ville. Et je pense, dès là, les gens, ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils vont les faire.
Donc, il faut quand même que les gens trouvent une activité sur place. Autrement, si personne ne s'occupe de leur destin, ils vont avoir Enfin, la ville fait toujours miroiter des succès extraordinaires, notamment par le biais de la télévision, les images, Internet. Et quand ils arrivent, c'est pas forcément aussi fantastique.
Peut-être c'est fantastique parce que c'est des mondes modernes. Parce que les télé et ordinateurs et email, c'est très important. Peut-être c'est ça qui nous manque. Et c'est ça qu'on a des problèmes. Donc il faut aller cet sens. Pour arriver, quelques-uns qui savent connaître email, ordinateur, télé, qu'est-ce qui se passe des mondes, dans les mondes.
Justement, Jacques Delnos et Jean-Yves Redon, comment vous voyez justement cette évolution possible du Niger? Parce qu'on voit dans un certain nombre de pays africains, quand le niveau, le nomadisme diminue, l'agriculture ne rapporte plus, quand il y a une petite élévation du niveau culturel, on a tendance à aller vers la ville. C'est fantastique, la ville. Tous les espoirs sont permis. C'est 1000 espoirs, là.
C'est vrai. Mais 1000 interrogations, parce que on n'a pas la solution. Franchement, on n'a pas la solution. Il y a des grands domaines d'emploi qui sont dus à la natalité et la démographie de ce pays. Quand on l'a touché, il y avait 10 millions d'habitants, il y en a 20 millions maintenant. Il y a des gamins à instruire. Donc déjà, il y a un grand champ d'application qui est l'éducation. Mais le deuxième champ, c'est évidemment la santé, puisque évidemment, il faut des gens pour la santé, que c'est un pays qui est sous-développé de ce point de vue. Mais, très franchement, votre question est embarrassante au plus haut point. Il ne faut pas se cacher, on n'a pas de solution toute faite, et nous n'avons pas à avoir de solution. C'est aux Oudabés à avoir leur solution. Et nous, on peut donner un coup de main au Oudabé dans la mesure où il nous présente des plans de solutions. On peut essayer de voir les coups de main qu'on peut donner. C'est pas nous qui allons inventer l'avenir des Oudabés. C'est au Oudabé à l'inventer.
Il s'agit pas de refaire du colonialisme.
Oui. On n'est pas là pour ça. C'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est le coup de main. Mais le coup de main, ça veut pas dire la direction des affaires. Et au Oudabé, ils ont commencé, faut pas rigoler, ils ont commencé à prendre leurs affaires en main, c'est-à-dire que Djabral, au départ, il y avait peut-être 10% des gens qui voulaient l'éducation il y a 10 ans, maintenant c'est 80-90%, et quitte à ce qu'ils nous disent qu'on n'en fait pas assez pour cette éducation, mais c'est vraiment un problème qui doit être pris en main par eux-mêmes, et pas par nous.
Alors, pareil, donc Jean-Yves Redon, comment vous voyez l'avenir du Niger? Donc, on sent à travers les différents témoignages que les choses bougent. Donc, Djuri Ubig est très content du succès que remportent ces actions qui sont menées depuis 10 ans. Mais donc, l'avenir est ouvert. Il peut être radieux, il peut être problématique.
Je crois que personne ne peut prévoir ça. Le Niger, comme un certain nombre de pays de cette région, je pense au Tchad, je pense au Mali, etc., sont confrontés à des problèmes démographiques absolument démentiels.
Mais ça veut dire que la population augmente très vite?
Oui, très très vite. Le nombre d'enfants par femme au Niger est de l'ordre de 7, avec un taux de natalité qui est de 4 pour 1000 à peu près, ce qui est énorme. Ça veut dire que la population continue à augmenter très vite et qu'il faut augmenter les ressources pour nourrir tout le monde. Je ne crois pas que le nomadisme le pastoralisme pour l'élevage soit quelque chose qui n'est pas d'avenir. En tout cas, c'est pas du tout ce qui se dit dans les instances internationales là-dessus. Par contre, il a besoin d'être réorganisé, d'être rationalisé. Et pour ça, il faut que les gens aient un minimum de culture intellectuelle, scolaire, informative, etc. Et là-dessus, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir, mais c'est un domaine qui est en train de démarrer. La Banque mondiale, par exemple, a investi depuis plus de 15-20 ans dans ce domaine-là avec des tout petits succès. Mais quand Djuri dit on s'est regroupé, ils ont des associations d'éleveurs qui travaillent là-dessus. Et ils ont buté justement parce qu'ils n'arrivaient pas à lire les textes ou des choses comme ça. Et à se coordonner sur des histoires comme ça. Ils ont l'association Jingo qui est une grande association d'éleveurs où il n'y a pas que des Peuls, il y a des Touaregs, il y a un grand nombre d'éleveurs nomades. Et tous ces gens-là ont compris qu'ils ont besoin de techniques modernes. pense à la vaccination des animaux, je pense à la gestion des troupeaux, la gestion des cheptels. Et ils ont, et ça va augmenter, ils vont augmenter, en fait, dans le temps, ils vont augmenter parce qu'il faut nourrir la population. Mais ils sont confrontés à, aux 10 années de sécheresse et aux problèmes climatiques qui s'aggravent, qui apparemment ne sont pas prêts de se résoudre. Et il va falloir s'adapter à ça. Et leurs méthodes traditionnelles sont dépassées pour ça.
Alors, vous avez des besoins de financement aussi. Une association ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche.
Oui. Alors, le financement, bon, c'est une petite action. Hein. Il faut aussi, faut quand même, on n'est pas le gouvernement du Niger, mais c'est une petite action d'appui à un petit groupe et qui est financé bien par les dons des adhérents. On a des gens qui parrainent cette action, qui tous les mois donnent un petit peu d'argent, de façon à ce que on puisse assurer le quotidien de la nourriture en partie pour les enfants sédentarisés. Et puis, de plus en plus, il faudra qu'on s'oriente sur d'autres projets. On parlait des bibliothèques. Jury a évoqué les questions d'accès à l'informatique ou des choses comme ça. On peut pas négliger ça. On sait pas encore très bien comment prendre ça. On est en train d'y réfléchir. Il va falloir qu'on fasse des choses. Mais il va falloir qu'on investisse encore. On a beaucoup investi pour monter les écoles. Jacques pourra vous dire à peu près combien ça a coûté les écoles.
100 000 euros, 5 écoles. 5 écoles, 6 maisons d'instituteurs et un internat, 100 000 euros.
Et donc, il va falloir qu'on continue ça, c'est-à-dire qu'on a besoin toujours de nos parrains pour assurer le fonds de roulement, et il faudra aussi qu'on s'appuie sur des dons, comme on a toujours fait. Ce matin, nous étions à l'école Marcel Callot, sous l'incitation des parents d'élèves, et ils doivent faire une petite opération bolderie, par exemple, au mois de décembre, qui amène, avec l'ensemble des bolderies qu'on va avoir des différentes écoles, ça nous amène à peu près 1 000 euros. Mais c'est ces petits ruisseaux là qui finissent par alimenter l'ensemble des besoins. On a aussi une fête qu'on fait à Concarneau, puisque l'association est basée à Concarneau. On a une fête qu'on fait au mois de mars prochain, où on fait un repas avec, il y a 200-300 personnes qui viennent, il y a un petit concert, ça amène aussi de l'eau au moulin. Et puis on a de temps en temps des dons exceptionnels de gens qui estiment que ça vaut le coup, quoi.
Et donc on peut aller sur internet pour avoir donc tous les coordonnées.
Absolument, oui, l'association a un site internet qui vient d'être fait, qui s'appelle milespoir.fr. C'est tout. On tapait ça et vous arrivez directement sur le site de l'association avec beaucoup, beaucoup d'informations.
Bien, très bien. Merci beaucoup, Jean-Yves Redon. Je rappelle que vous êtes président de 1000 Espoirs, 1000 Savoirs. Jacques Delnos, merci beaucoup. Et vous êtes l'ancien président. Et Jory Big, merci. Vous êtes le chef de la tribu de nomades du Niger, donc la tribu Wedabé du Niger, qui avait donc donné votre témoignage avec l'association. Merci beaucoup. Vous êtes également président de l'association Jabral. Merci.